Notre frère en Christ est parti vers le Seigneur et nous ne le reverrons qu'au ciel, ce qui est une bonne nouvelle, parce que quand nous le reverrons, nous serons aussi passés de l'autre côté. Et c'est une joie d'y penser à l'avance, de le retrouver, de penser aussi qu'il est dans la paix, il est dans la joie, la félicité, dans l'allégresse même. Et ce matin, donc, à l'occasion de la mort de ce frère, je voulais donc parler spécialement de notre espérance, la réponse de Dieu à la mort. Et quelqu'un dit, le vrai test de votre religion, c'est la mort. Est-ce que mon Dieu, est-ce que ma religion, est-ce que ma foi apporte une vraie réponse à la mort? On peut avoir de la religion pour la vie, en disant j'essaie d'avoir une vie morale, je fais quelques prières, je fais attention. Mais est-ce que votre religion est aussi pour la mort? Est-ce qu'elle vous fait traverser le voile de la mort victorieusement? Salvador Dali, qui était un artiste très original et qui avait l'air insouciant comme ça, un jour a déclaré, a confessé, on pourrait dire, hein, dans un journal en 1979, le seul problème qui non seulement me préoccupe, mais aussi m'effraie, c'est la mort. Et je pense qu'il résume beaucoup la pensée d'énormément de gens en France. Le problème qui nous préoccupe et qui nous effraie, c'est la mort. Il avait le courage de l'avouer, parce que beaucoup n'ont pas ce courage. Ils disent, oh, la mort, on verra, j'y penserai. Eh bien, chaque fois que quelqu'un de proche de nous meurt, c'est le moment d'y penser. C'est le moment de faire le test, de se poser la question. Est-ce que j'ai une véritable espérance? Dans le Nouveau Testament, Paul a écrit que ceux qui n'ont pas Dieu sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est terrible, je trouve, d'être sans espérance et sans Dieu. Et un autre penseur français a dit, quand on n'a pas Dieu, la mort est toujours victorieuse. Et c'est vrai que si on n'a pas Dieu, si on n'a pas d'espérance, c'est la mort qui triomphe à la fin. Et elle triomphe toujours. Pour l'instant, il n'y a personne qui peut dire, moi, j'ai vaincu la mort par mes forces. Et c'est d'ailleurs pourquoi notre médecine essaye de repousser les limites de la mort. On est prêt à vous mettre des appareils de tous les côtés pour que vous viviez le plus longtemps possible. On fait tout pour prolonger cette vie terrestre. Mais quand on a la victoire sur la mort, ce qui importe, ce n'est pas de prolonger la vie terrestre, ce qui importe, c'est de savoir où on va. Paul aussi aux Thessaloniciens leur a écrit, nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous qui avons cru en Christ, nous avons une espérance, nous ne sommes pas désolés, nous ne sommes pas abattus, nous ne sommes pas complètement défaits chaque fois que quelqu'un passe de l'autre côté. Surtout lorsque nous savons que cette personne avait le Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous savons que la personne est au ciel, est dans la présence de Dieu. Par contre, si la personne n'avait pas Christ dans sa vie, là c'est une autre histoire. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus la vie éternelle. Elle est très claire. Jésus était très clair. Paul a écrit aussi aux Corinthiens en leur disant, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. S'il n'y a pas de résurrection, savez-vous qu'il y a des protestants qui ne croient pas à la résurrection? Ils se disent chrétiens, mais ils disent non, la résurrection, ça c'est une invention, c'est une légende de la Bible. Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Mais Paul écrit, si on ne croit pas à la résurrection de Christ, on ne croit pas à notre résurrection, et si on ne va pas ressusciter, on est les plus malheureux. Parce que s'il n'y a que cette vie, alors la vie est absurde. Il y en a qui meurent jeunes. Pourquoi ils meurent jeunes? C'est injuste. S'il n'y a que cette vie. Notre frère, hein, avait moins de 40 ans. Il avait l'air en pleine santé, c'était un solide gaillard. Il avait ce sourire qui éclairait tout le monde. On se dit, pourquoi Dieu l'a-t-il repris maintenant, si tôt? Mais Dieu sait bien ce qu'il fait. Et pour lui, ce n'était pas si tôt, peut-être même c'était une bénédiction pour Abdennour, de rejoindre son Sauveur aussi vite. c'est dans cette vie que nous espérons, nous sommes malheureux, parce que le chrétien n'a pas toujours une vie facile. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, hein, en permanence. Beaucoup de chrétiens sont morts pour leur foi. Ils sont morts abruptement, hein, soudainement, brutalement, parce qu'ils croyaient au Seigneur. Alors s'il n'y avait rien après la mort, ils sont morts pour rien. Ils ont souffert pour rien. Mais nous croyons qu'il y a la vie après la mort. Que la vie éternelle, elle commence maintenant et qu'elle ne s'arrête pas. Quand on a la vie éternelle, on l'a maintenant et rien ne peut arrêter cette vie, même pas la mort. C'est ce que Jésus a dit, hein, Jean chapitre 11. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Vous connaissez cette parole de Jésus. Même s'il meurt. Normalement, la mort, c'est le mur. Rien ne peut passer au-delà. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Et on se dit, qu'est-ce que je peux faire? On se bat, on crie, on pleure. Mais on est tous impuissants. Sauf que celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, il vit encore dans la présence de Dieu. Job a aussi, dans son livre, poser cette question que beaucoup se posent. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, alors j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Job souffrait de maux divers. Il dit, si l'homme peut revivre après la mort, alors je tiendrai le coup. Mais s'il n'y a rien après la mort, c'est horrible. C'est horrible de souffrir dans cette vie, sachant qu'on va disparaître après. Alors, est-ce que Jésus apporte une réponse? Et c'est Job, hein, qui déjà voyait, entrevoyait, et voyait bien même le Messie à venir. Il disait, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. » Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous vous rendez compte que Job, c'est peut-être le livre le plus ancien. Il était dans l'époque des patriarches. Il était avant Moïse, Job. Et déjà, il disait, mon Rédempteur, il est vivant. Et quand je ne serai plus que la poussière, j'aurai plus de peau, plus rien, je le verrai. Mais avec quoi il va le voir? Il n'a plus Dieu. Il le verra avec son âme qui continue à vivre. Je verrai mon Rédempteur. Qui c'est le Rédempteur? Hein, c'est celui qui nous rachète, c'est ça que ça veut dire, Rédempteur. Celui qui a payé notre dette envers Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est mort sous Ponce Pilate. Il est mort sur une croix et il est ressuscité 3 jours après. Et il est notre Rédempteur. Il a racheté nos péchés parce que nous ne pouvons pas payer notre dette tout seul. Avec quoi allons-nous payer notre dette à Dieu? Avec quel argent? Avec quelle matière? Avec quel bien peut-on racheter son âme? Est-ce que vous avez une idée? Comment peut-on payer le rachat de son âme? Il n'y a qu'une seule valeur, hein, c'est le sang précieux de Christ. Nos bonnes œuvres ne rachètent pas nos mauvaises œuvres. Notre religion ne rachète pas nos péchés. On peut avoir beaucoup de religions, on peut être pieux, etc., mais ce n'est pas ça qui paye. Ce qui paye, c'est le sang précieux de Christ. Et quand on met sa foi au sacrifice de notre Rédempteur Jésus-Christ, eh bien, tout est payé. Quand Jésus est mort sur la croix, il a prononcé une dernière phrase. « Tout est accompli ». Et en grec, c'est un mot qui est unique, qui veut dire « tout est payé ». C'est ce que les comptables de l'époque utilisaient quand vous avez payé votre dette. Le même mot, exactement le même mot, « tout est payé ». Terminé, tu ne dois plus rien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une grosse dette. Et puis, vous faites des remboursements. Hein. Je connais un frère à Nice. Ça fait, je crois, 6 ans qu'il rembourse les dettes de son ex-femme. Et c'est dur. Et Il n'en voit pas la fin, mais il dit, si, ça y est, maintenant, dans un an, j'aurai fini de rembourser. Et il s'est serré la ceinture pendant toutes ces années. Et je sais que le jour où il n'aura plus rien à payer, il va sauter de joie et dire, oh, je vais payer un voyage, je vais faire quelque chose, mais il faut que je fasse ça. C'est tellement merveilleux de ne plus avoir de dette. Eh bien, la dette de nos péchés, c'est encore pire, évidemment. Il y a ce poids permanent. On peut avoir une vie agréable, hein, paisible, on peut avoir beaucoup d'argent sur la terre, mais tant qu'on n'a pas payé la dette de nos péchés, on est très mal. Hein. Parce que le jour où on meurt, là, Dieu va nous demander des comptes. Et quand on arrive avec tous ces péchés, le jour de la mort et le jour du jugement, on est condamné, dit la Bible. Une seule façon d'être sauvé de ce jugement, c'est que Jésus-Christ soit votre rédempteur. Votre Banque de France qui paye pour vous, qui met tout son poids, toute sa puissance et toute sa grâce en disant « J'ai payé pour lui, mon sang a été versé pour lui, pour elle. » Nous avons un rédempteur. Et Paul écrira dans 1 Corinthiens 15, « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Hein, c'est une phrase très connue. Et c'est étonnant parce que c'est comme s'il s'adressait à la mort, hein, en disant « Alors, où est ta victoire maintenant ? Tu avais gagné jusque-là, tu me faisais peur. Hein. Je n'osais même pas te regarder en face. Je te fuyais en permanence. Mais maintenant, je peux te regarder dans les yeux et dire « Tu ne me fais pas peur, parce que Christ est mon sauveur, mon rédempteur, il a payé pour moi. » Le même passage dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce n'est pas, encore une fois, mes œuvres, ma religion qui me donne la victoire, c'est mon Seigneur Jésus-Christ qui me fait passer de l'autre côté, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître en sa présence. Si Jésus est ressuscité, moi qui crois en Jésus, je vais ressusciter aussi, je paraîtrai en sa présence. C'est mon espérance, c'est notre espérance. Qu'est-ce que c'est l'espérance du chrétien ? L'espérance du chrétien, d'abord, c'est une certitude. Malheureusement, en français, le mot « espérer » a changé de connotation. « Espérer » est devenu... peut-être, ah, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais pouvoir y arriver. Et dans la Bible, espérer, c'est un autre sens. Espérer, ça veut dire attendre avec anticipation. Que ce soit dans l'hébreu, pour l'Ancien Testament, ou dans le grec, le mot qu'on a traduit espérer, ça veut dire attendre avec joie, avec anticipation. Et c'est merveilleux cette attente parce que ce n'est pas quelqu'un qui se dit oh, « j'espère que ça va bien se passer », mais c'est quelqu'un qui dit « j'attends le salut, j'attends l'accomplissement de ce que j'ai toujours attendu de mon vivant ». Nous attendons ce jour, hein, nous rentrerons dans la présence glorieuse du Seigneur. On attend ce jour. Mais on ne l'attend pas avec inquiétude, avec angoisse, en disant « Est-ce que je vais être prêt? Est-ce que ça va bien se passer ?» On l'attend avec certitude, parce que Christ a tout payé. Je ne vais pas me présenter devant Dieu en disant « Écoute, Seigneur, voilà, j'ai fait une liste des bonnes actions que j'ai faites. Et j'espère, Seigneur, que tu vas voir quand même que je suis quelqu'un de bien. D'abord, je suis pasteur. Alors quand même, ça compte. Hein? Et regarde, j'ai été pasteur, un pasteur, hein, c'est quelque chose. Hein? » Devant Dieu, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Vous êtes président, pasteur, pape. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait de mon fils, Jésus-Christ ? C'est ça la question. Moi, je sais que je pourrais dire, je l'ai accepté, je l'ai reçu comme mon sauveur. Il a payé ma dette. Est-ce que vous pouvez dire ça aussi ? Ou est-ce que vous avez préparé votre liste de bonnes œuvres à citer à Dieu ? Ne faites pas ça, oh mes amis, surtout pas ça. Parce que Dieu, il a une liste qui est quasiment infinie des péchés que nous avons commis, des fautes envers sa loi sainte, envers sa personne, des offenses envers Dieu, des fautes que même vous ne réalisez pas. Et cette liste est très, 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 très longue. Et nos petites bonnes œuvres, hein, c'est une petite liste qui compte sur les doigts de la main, nos vraies bonnes œuvres. On ne peut pas venir à Dieu avec nos œuvres, nos mérites, on ne peut venir que par la grâce, en disant Seigneur, j'ai péché, je suis fautif, je t'ai offensé, mais je crois que Jésus a payé ma dette et que je suis gracié. Alors l'espérance du chrétien, c'est pour prix de sa foi. Comme dit l'apôtre Pierre dans son épître, au chapitre 1, il dit, nous attendons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Qu'est-ce qui paye le salut de l'âme? La foi en Jésus-Christ. L'espérance du chrétien est très concrète. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons d'abord l'accomplissement de notre être et de notre relation avec Dieu. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 1, il est écrit que ce que Dieu a commencé, il le rendra parfait pour le jour de Christ. Dieu a commencé une œuvre en nous pour nous rendre à l'image de Christ, nous rendre semblables à Christ, avoir sa perfection, son équilibre, son amour, sa paix, sa sainteté, toutes les qualités de Christ. Dieu a commencé ce travail en nous. Et les épreuves que nous vivons sont là pour nous perfectionner, nous sanctifier, même si on se plaint des épreuves, même si on dit j'en ai un peu marre des épreuves, j'aimerais un peu de repos, de bénédiction. Attendez le ciel. Sur la terre, Dieu nous perfectionne. Mais quand on va arriver dans le ciel, dans la gloire de Dieu, là, on sera rendu parfait. Il n'y aura plus de défaut en nous. Tout ce qui était du péché de la vieille nature sera enlevé. Je serai l'Emmanuel parfait tel que Dieu le voit. Vous savez, les grands sculpteurs ou les grands peintres de portraits, hein, ils ont déjà dans leur tête l'œuvre terminée. Pense aux sculpteurs en particulier. Ils ont un bout d'argile ou devant eux. C'est juste un chaos total. Il n'y a rien aucune forme particulière. Mais lui, il a déjà la forme finie. Il sait ce que ça va être. Et ses mains commencent à travailler. Et quand à la fin c'est terminé, vous dites, waouh, c'est sublime, c'est beau. Et Dieu fait un peu ça avec nous, hein. La Bible nous compare à de l'argile dans les mains du potier. Dieu voit déjà le résultat fini. Nous, on ne le voit pas. On dit, Seigneur, je suis tellement mal fini. Je suis tellement imparfait. Il y a tellement de choses. Il y a des craquelures, il y a des bosses. Je ne suis pas un beau vase, Seigneur. Mais le Seigneur continue son travail avec ses mains gracieuses et aimantes. Et quand nous arriverons dans l'éternité, on pourra être cuit, n'est-ce pas, au four, parce que nous serons un vase parfait. Il n'y aura rien à retoucher, parce que ce que Dieu fait est parfait. Voilà ce que nous attendons. Nous attendons aussi un lieu où il n'y a plus aucun mal, plus aucun péché. Dans Apocalypse, hein, c'est bien sûr le livre qui en parle le plus de notre espérance céleste. Apocalypse 21, 27. Il parle de la Jérusalem céleste où nous habiterons. Il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'y aura rien de souillé, rien d'impur. Il n'y aura aucun péché, aucun pécheur. Nous serons tous glorifiés. Tous ceux qui seront dans cette ville céleste seront glorifiés, seront parfaits. Il n'y aura aucun vice, aucune perversité, il n'y aura aucun mensonge, aucune hypocrisie, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas tout ce qui nous fait souffrir sur la terre de nos êtres humains, de nos cœurs humains imparfaits et mauvais. Alors, il y a bien sûr les moqueurs qui disent, oh, on va s'ennuyer alors. Ben, je crois pas, non. Parce qu'on se plaint tellement des autres, hein, sur la terre. On dit, ah, oh, regarde comment ils font, ils sont méchants, ils sont racistes, ils sont ceci. Et on dit plein, on est tout le temps en train de juger les autres êtres humains. Mais au ciel, ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau seront là dans cette Jérusalem céleste. Et il n'y aura que des rapports merveilleux, des rapports parfaits. Il n'y aura pas de violence, d'agressivité, de mensonges, de manipulation, je ne sais pas. Tout ça sera disparu. Il n'y aura que l'amour de Dieu parfait. Et dans l'amour parfait, on ne s'ennuie pas. Nous aimons avoir les repas fraternels et il y a des moments de grâce dans ces repas fraternels, des fois, où on sent que l'Esprit de Dieu est là, l'amour de Dieu, et on se réjouit, pas tellement de la nourriture, mais de la communion fraternelle. Et là, ce sera un moment de grâce éternel, perpétuel. On ne s'en lassera jamais. Dans le ciel, nous aurons aussi la gloire. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, donc quand il reviendra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La gloire. Chez les Juifs, ça a un sens particulier, la Shekhinah, la gloire brûlante qui les devançait dans le désert, la gloire qui était dans le temple, dans le lieu très saint. Cette gloire de Dieu, c'est la gloire, c'est quelque chose qui brille d'une façon incalculable, c'est quelque chose qui émane, qui ressort, c'est la gloire de Dieu, c'est toutes les perfections de Dieu qui éclatent et qui se manifestent tout en même temps. Nous serons dans cette gloire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent la gloire. Alors, ils essaient sur Internet, par exemple. Alors, ils font n'importe quoi, ils se filment et puis ils disent, voilà, j'espère avoir la gloire. Faire le buzz, ça s'appelle. Mais entre buzz et gloire, je peux vous dire, il y a une grosse différence. Hein. Il y en a qui sont contents de recevoir des récompenses, des Oscars, des Césars, des médailles d'or, n'est-ce pas? C'est l'époque des Jeux olympiques d'hiver. Mais tout ça, c'est vain, c'est vide, c'est rien comparé à la gloire du chrétien quand Christ reviendra. Et ce n'est pas une gloire où nous nous vanterons en disant « Ça y est, j'ai la gloire, je suis récompensé. » Non, ce sera une gloire humble, parce que ce sera la gloire de Dieu qui éclate et qui rejaillit sur nous. Quel moment extraordinaire! Je pense à ces artistes quand ils reçoivent un César ou un Oscar. Hein. Il y a des milliers de personnes, plus de téléspectateurs qui les regardent et ils sont là, et ils sont dans leurs plus beaux habits et puis quand même ils sont émus parce que je reçois une récompense. Le monde entier me regarde tenir ma statue et être récompensé. On les applaudit et il y a cette ambiance électrique. Hein. Je pense qu'on doit être très ému et avoir un grand trac hein, devant cette foule qui vous applaudit, même si parfois c'est hypocrite. Mais dans la gloire du ciel, il y aura ces applaudissements, il y aura cette joie, cette louange, cette adoration, mais elle sera vraie d'abord, et elle sera la gloire de Dieu. Aussi, il y aura quelque chose d'extraordinaire, bien sûr, dans le ciel, c'est l'amour parfait. 1 Corinthiens chapitre 13, le fameux chapitre de l'amour. Versets 12 et 13. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, maintenant sur terre, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Nous croyons en Dieu par la foi, nous ne le voyons pas. Nous croyons en ses promesses, les promesses de l'Évangile. Je suis sauvé par la foi, mais au fond, je n'ai pas encore passé la mort. Je ne suis pas de l'autre côté encore. C'est seulement par la foi. L'espérance, pareil, j'espère, j'attends. Et le troisième, l'amour. Mais il dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi la plus grande, c'est l'amour? Parce que quand nous serons morts et que nous revivrons dans le ciel, hein, il n'y aura plus besoin de foi, parce que Dieu, on le verra. Il n'y aura plus besoin d'espérance, parce que ce qu'on a, on ne l'espère plus, on ne l'attend plus, on l'a. Il n'y aura qu'une chose qui restera dans le ciel, cet amour parfait. Je connaîtrai comme j'ai été connu, je verrai face à face. Tout s'éclaira, tout deviendra clair, et l'amour de Dieu pourra se déverser sans aucun obstacle. Malheureusement, sur terre, nous mettons des obstacles à l'amour de Dieu. Des fois, nous sommes incrédules, nous sommes ingrats. Dieu nous aime et on s'en fiche. On méprise son amour, on marche dessus parfois. Mais là, dans la présence de Dieu, son amour pourra s'accomplir et C'est un amour incommensurable, parce que c'est l'amour qui lui a fait quitter le ciel pour descendre. Et là, il nous fait monter au ciel vers lui. C'est l'accomplissement de son amour. Il veut qu'on soit près de lui dans le ciel. Il faut vraiment nous aimer, hein. Parce qu'il aurait pu nous laisser sur la terre en disant, bon, moi j'habite au grenier, toi t'habites au rez-de-chaussée, on se croise de temps en temps, mais c'est tout. Mais le Seigneur dit, je veux que tu vives avec moi. Je t'aime d'un amour éternel. Comment le Seigneur peut-il nous aimer, franchement? Franchement, on n'est pas aimable. On n'est pas reconnaissant. On n'est pas digne de cet amour. Et il nous aime pourtant. Et cet amour, il va l'accomplir, le réaliser totalement quand on sera dans sa présence. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous connaîtrons aussi l'immortalité, 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible, donc mortel, aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ce corps mortel, malade, faible, vieillissant, n'est-ce pas? Il revêtira l'incorruptibilité, l'immortalité. Rien ne pourra le corrompre. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de maladie. Ce sera un corps glorieux, comme le corps de Jésus-Christ quand il est ressuscité. Rappelez-vous, dans ce corps, d'abord, on ne le reconnaissait pas toujours. Et on se demande pourquoi, hein, plusieurs disciples n'ont pas reconnu Jésus après sa résurrection. Et puis, dans ce corps, il traverse les murs, il entre. Les disciples sont tous enfermés, barricadés, parce qu'ils ont peur d'être arrêtés aussi. Et Jésus entre. À travers la porte, à travers les murs, je ne sais pas, il entre. Et en même temps, avec ce corps, il mange du pain et des poissons avec les disciples. Il rompt le pain devant les fameux disciples d'Emmaüs. Et puis un jour, dans ce corps, ce même corps ressuscité, il monte au ciel. Nous aurons ce corps glorieux comme Christ, ce corps qui est fait pour le ciel en fait, qui n'est pas fait pour la terre. Nous aurons l'immortalité, l'homme recherche l'élixir de jouvence. Vous savez qu'il y a des gens, sérieusement, ils cherchent l'élixir de jouvence. Ce n'est pas des rigolos, hein. Je cherche une source extraordinaire dans telle île ou tel endroit, ou si on mélange tel produit, on aura peut-être l'élixir de jouvence. Et les scientifiques sérieux, eux, ils cherchent le gène qu'on va pouvoir arrêter pour vivre éternellement. Il y a ceux qui disent, je vais me faire cryogéniser, hein, je vais me faire mis à, je sais pas, moins 360 degrés dans un tube, et j'attends après qu'on trouve un moyen de me ressusciter plus tard. On fait tout, on cherche. Et Dieu dit, si tu as Christ, quand tu vas mourir, et quand je te ressusciterai, tu recevras l'immortalité gratuite, l'incorruptibilité. Nous aurons aussi l'allégresse. 1 Pierre 4, 13. Alors j'ai choisi un verset à chaque fois, parce qu'il y en a plein, hein, bien sûr. La Bible est remplie de merveilleuses promesses. 1 Pierre 4, 13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous aussi vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » C'est rare de connaître l'allégresse. Il y a la joie qui est ce moment où on est content, où quelque chose de bien nous est arrivé. Voilà, ça nous réjouit le cœur. On est en fête. Mais l'allégresse, c'est la joie puissance 10. Hein. L'allégresse, c'est une joie ineffable. C'est indescriptible. Il n'y a pas de mots pour dire expliquer ce que c'est de vivre l'allégresse. Et ça, c'est quand on sera au ciel. Il y aura une allégresse. Beaucoup disent, hein, au ciel, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer de la harpe et puis on va être là s'ennuyer. Un petit peu comme dans une maison de retraite où vous n'avez rien à faire et vous attendez la mort. Ben, ce n'est pas ça qui est décrit dans la Bible, ça c'est sûr. Dans la Bible, on est dans l'allégresse. On est dans la présence de Dieu. Et on n'est pas là à se morfondre ou à être complètement préoccupé. Au contraire, on se réjouit parce que c'est l'accomplissement. C'est tout ce qu'on a attendu et là. On voit Dieu face à face. On peut lui poser toutes les questions, d'ailleurs on n'a même plus besoin de lui poser, elles viennent les réponses. Hein. Tout s'éclaire, tout prend sa place, tout s'accomplit. Un petit peu, hein, comme un puzzle que vous n'arrivez pas à finir. Ça vous est arrivé déjà? les 10 dernières choses, ou les 50 dernières souvent, hein, parce que les 10 dernières c'est plus facile, mais les 50 dernières, vous êtes là. Et là, tout le puzzle prend sa place, tout est clair. Je sais pourquoi je suis venu sur la terre, je sais pourquoi Dieu m'a aimé. Il y aura aussi le repos, Apocalypse 14, 13. Et ça, c'est précieux. Notre frère Abdennour, qui a été repris, travaillait dur. Hein. Il avait une vie assez difficile. Et il ne comptait pas ses heures, il ne comptait pas sa fatigue, il ne se plaignait pas. Et la Bible dit, Apocalypse 14, 13, j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, dans la foi au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres, leurs œuvres, les suivent. Alors, il parlait de travailler pour le Seigneur, pas simplement de travailler pour gagner sa vie. Hein. Il parlait des œuvres faites pour la gloire de Dieu, l'évangélisation, l'encouragement des frères, bâtir des églises, etc. Mais on se reposera de nos travaux. Le ciel, c'est le repos. Le repos n'est pas encore tout de suite. Hein. On aimerait pouvoir se reposer tout de suite. Et un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il prend pas sa retraite. Hein. Il n'y a pas de retraite pour la vie de l'esprit. Il n'y a pas de retraite pour la prière. Il n'y a pas de retraite pour témoigner de sa foi. Ça n'existe pas, ça, dans le royaume de Dieu. La retraite, c'est au ciel. Là, on se repose. Et là, on voit le Seigneur et on se réjouit. Mais ce n'est pas un repos à la Corse. Hein. Ce n'est pas la sieste éternelle. Et je dis ça parce que je sais de quoi je parle. Ce n'est pas une sieste éternelle, le ciel. Parce que la Bible parle aussi que nous allons régner. Elle dit que nous allons régner en Apocalypse 22. Versets 3 à 5. Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus d'anathème, de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Dans la présence du Seigneur, nous servirons et nous régnerons avec Christ. Nous régnerons sur la nouvelle terre. Nous aurons une responsabilité. Jésus a dit, hein, si tu es fidèle dans peu de choses, on te confiera des grandes. Est-ce que je suis fidèle dans ma vie chrétienne? Parce que après, Dieu me fera régner avec lui et me donnera des responsabilités. Est-ce que je réalise tout ce qui va se passer après? Que, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est très court, c'est très petit, c'est très faible, c'est très limité. Ce qui se passe après la mort, c'est énorme. C'est très long. On prépare plein de choses dans la vie, hein. On prépare ses vacances, on prépare son déménagement. On fait des colis, des cartons, on dit, ouais, je vais garder ça, je vais trier ça. On prépare sa retraite. Est-ce qu'on a préparé notre vie éternelle? Est-ce qu'on pense à préparer sa vie éternelle? Vous savez comment un chrétien préparer sa vie éternelle? Il y a au moins deux façons. La première, c'est d'amasser pour l'éternité. C'est le Seigneur Jésus qui a dit dans ce fameux verset de l'évangile de Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que ma vie est investie dans les choses éternelles, les choses spirituelles? Bien sûr, il faut travailler, il faut vivre sur la terre. Hein. On est terrestre, on est humain. Si on a une famille, il faut s'occuper de sa famille. Il ne s'agit pas de tout laisser tomber, de tout jeter en disant « je vis pour l'éternité ». Jésus est assez clair dans le reste de ses enseignements pour nous montrer qu'il faut être très concret, très pratique. Mais quand il dit « n'amassez pas pour la terre », il parlait notamment de l'argent, pour commencer, mais aussi de tout notre investissement de vie. Est-ce que toute ma vie est là? Est-ce que toute ma vie, c'est mon job, mon boulot? Ouais, je me donne à mon boulot et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui compte. Ou je me donne à mes loisirs, ou j'ai une passion, voilà, j'aime la moto. Ah ben, je donne tout pour la moto. Il y a des gens, ils sont fous de moto, fous de voiture. Et là, ils ont vendu des voitures. Il y a des gens qui ont acheté une voiture, je ne sais plus, une voiture de collection pour 2 millions. 2 millions d'euros pour un tas de ferraille. Alors, je ne dis pas ça devant la personne, parce que... tas de ferraille et de caoutchouc. Et dans quoi est-ce que j'investis ma vie? Est-ce que j'investis dans les âmes éternelles, dans les besoins éternels? Toutes les minutes passées dans la prière valent plus que des heures à fabriquer une moto ou une voiture plus belle que je n'imaginais. Parce que la prière a un effet éternel, des fruits éternels. Une autre façon dont le chrétien peut préparer aussi sa vie éternelle, c'est de préparer ses obsèques. On n'y pense pas assez, et je profite de ce moment pour vous le dire. C'est-à-dire, pas aller voir juste les pompes funèbres et dire « voilà, je veux un cercueil de telle couleur ». Préparer ses obsèques, c'est d'avoir un texte que vous avez rédigé maintenant pour vos familles, pour vos proches, qui soit lu le jour de vos obsèques. D'avoir choisi des cantiques. Le jour de mes obsèques, je veux qu'on chante tel cantique. Pour que vous puissiez parler de l'au-delà, que votre voix s'entende encore de l'au-delà, en disant, les amis, moi, je sais où je suis, je ne suis pas mort, je suis vivant avec Christ. Vous êtes là à mon enterrement, vous pleurez, c'est normal, mais moi, je suis vivant. Je suis dans l'amour, dans l'accomplissement, dans l'immortalité, dans l'allégresse. Ça fait des belles obsèques, ça. Des obsèques tout à fait différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. Préparer ces obsèques, de faire un testament spirituel pour ses proches, surtout si vos proches ne connaissent pas encore le Seigneur. Si jamais vous deviez partir d'une façon inattendue, plus vite que vous ne le pensez, vos proches, ils auront un testament spirituel. Notre frère, le pasteur Steve Barnes, nous avait raconté que dans son église était venue une jeune fille à travers les jeunes, et après avoir entendu l'évangile plusieurs fois, elle avait cru de tout son cœur au Seigneur Jésus. C'était une chrétienne admirable et magnifique. Elle était remplie de joie et du salut, et elle essayait de parler de sa foi à ses parents, à ses frères et sœurs, et ça ne se passait pas très bien. Oui, t'es dans une secte, et laisse-nous tranquille, il n'y a pas de Dieu, et on ne veut rien savoir. Et elle était tellement remplie du Seigneur qu'elle avait un petit journal et elle écrivait ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait dans sa foi, et sa souffrance aussi pour sa famille, elle priait pour eux ardemment. Et un jour, dans son journal, elle a écrit quelque chose de particulier. Et puis, la famille est partie en vacances en voiture, ils étaient tous dans la voiture, et ils ont eu un accident très grave. Il y a eu un mort. C'était elle. Les autres ont été rescapés et ils ont retrouvé son journal. Et ils ont trouvé la page où elle avait écrit, alors qu'elle avait 17 ans, « Si un jour je dois mourir, j'aimerais, papa, maman, mes frères et sœurs, que vous sachiez que je n'ai pas peur de la mort, que je suis avec le Seigneur. J'aimerais que vous sachiez que Jésus est vrai, que Jésus est vivant, que la mort n'est pas la fin. J'aimerais que vous croyiez aussi à mon Jésus, à ce Jésus. » Et les parents étaient évidemment bouleversés. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je ne peux pas vous dire qu'ils sont devenus chrétiens, mais je peux vous dire qu'ils n'ont pas oublié ce testament spirituel. C'est comme si elle avait une prémonition, qu'elle allait mourir jeune. Et le fait qu'elle soit la seule qui meurt, là, c'est la seule qui savait où elle allait. Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que vous vivez pour les choses éternelles? Est-ce que quand vous allez entrer dans le ciel, si vous êtes sauvé, si vous êtes chrétien, ça va vous paraître chez vous ou ça va vous paraître étranger? Vous allez vous dire, ah, j'aurais plus tous mes trucs là, que j'aimais bien, ma voiture, ma moto, mes films, ma nourriture, je ne sais pas, tout ce qu'on peut aimer sur la terre, mon ordinateur, hein, mon ordinateur, mon téléphone, oh non, je vais laisser mon téléphone. Il n'y aura pas besoin de téléphone au ciel, hein, ça c'est sûr. Il y aura la 8G en direct, hein, gratuite. Est-ce que je suis tellement attaché à cette terre, hein, que mes yeux ne sont plus au ciel, que j'oublie que le ciel c'est le Seigneur et que le Seigneur c'est le ciel? Et Dieu nous appelle à travers le départ d'un frère, hein, de l'autre côté, à penser à nous-mêmes, à réfléchir et à remettre notre vie en ordre. Que ma vie compte pour le Seigneur jusqu'à la dernière seconde de vie. Si Dieu m'accorde une longue vie, tant mieux, je veux la vivre pour lui. S'il m'accorde une vie plus courte, tant mieux, parce que je le rejoindrai, peu importe la durée de ma vie, mais je veux au moins que dans cette durée, j'amasse les choses éternelles, que je glorifie Dieu déjà sur cette terre. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas prêt à mourir, si c'était votre sœur, hein, cette jeune fille, là, et que vous lisiez son journal en disant « Moi, j'étais prête à mourir, et toi ?» et que vous dites « Non, je ne suis pas prêt à mourir du tout. » Eh bien, sachez que Dieu vous aime et qu'il vous appelle et qu'il s'adresse à vous. Il dit « Je te connais, je sais qui tu es et j'ai donné ma vie pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Je suis mort sur une croix il y a 2000 ans pour toi aussi. Et je veux effacer tous tes péchés, tout ce que tu as sur la conscience, je l'efface. Et on n'en parle plus parce que j'ai payé ta dette. Et je te donne ma vie, la vie éternelle. » Et c'est merveilleux après de partir avec cette vie, de dire « Je suis sauvé » et de chanter. Pourquoi on chante les cantiques? Parce qu'on est sauvé. Parce qu'on a la joie du salut.